Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Violentes manifestations dans les territoires palestiniens après la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Il y a eu des affrontements en Cisjordanie et des tirs de projectiles depuis Gaza sur le territoire israélien. Dans un instant, le reportage de Marine Vlaovic à Ramallah. Le président turc Erdogan veut renégocier la frontière avec la Grèce. Il l'a dit aujourd'hui à Athènes face à ses interlocuteurs grecs. Nous parlerons de ce qui ressemble à une provocation avec notre invité, le chercheur Jean-Marc Coux, spécialiste de la Turquie. En Allemagne, le SPD accepte de négocier une nouvelle grande coalition avec Angela Merkel. Mais les discussions pourraient prendre des semaines, voire des mois. Cyril Sauvageau nous appellera de Berlin. Il fallait s'y attendre. La décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a déclenché aujourd'hui de nombreuses manifestations de colère palestinienne. Des heurts ont éclaté avec les soldats israéliens à Gaza et en Cisjordanie. On dénombre ce soir côté palestinien une vingtaine de blessés par balles réelles ou en caoutchouc. Exemple à Ramallah, le siège de la présidence palestinienne, avec ce reportage de Marine Vlaovic.
Visage camouflé par des keffiyehs, des centaines de manifestants affrontent l'armée israélienne aux portes de Ramallah. Les soldats lancent du gaz lacrymogène et tirent des balles en caoutchouc, mais les Palestiniens reviennent à la charge, car c'est avec rage qu'ils s'opposent à la décision de Donald Trump.
Mais qui est-il pour changer la capitale de la Palestine? Nous allons résister de mille manières, nous avons de nombreux outils.
Parmi ces outils, les pierres lancées contre les soldats. Des pierres pour défendre Jérusalem, qu'ils revendiquent comme la capitale d'un futur État palestinien. Et certains parlent même d'intifada. L'armée finit par reculer de quelques centaines de mètres sous le poids de la colère des manifestants. Le temps du processus de paix et des négociations avec les Israéliens est désormais loin.
Je pense que c'est la dernière balle qui a tué les accords d'Oslo. Maintenant, nous ne voulons plus la solution à deux États, nous voulons restaurer la Palestine historique.
De nouveaux rassemblements sont annoncés pour demain dans les territoires palestiniens occupés.
Marine Vlaovic à Ramallah, l'armée israélienne annonce ce soir avoir riposté à des tirs de projectiles, sans doute des roquettes venues de Gaza. Un char et un avion ont visé des postes militaires dans le territoire palestinien. On ignore le bilan de cette riposte. Pas de victimes en revanche côté israélien. Le Hamas, qui contrôle Gaza, appelle à une nouvelle intifada contre Israël. Et puis en Jordanie, plusieurs centaines de manifestants rassemblés à Amman, la capitale, ont crié « mort à Israël » tout en brûlant des portraits du président américain Donald Trump. La Turquie a été l'un des premiers pays musulmans à dénoncer la décision de Donald Trump. Recep Tayyip Erdogan l'a redit aujourd'hui à Athènes. Pour le maître d'Ankara, il s'agit d'une visite historique en Grèce, la première d'un président turc depuis 65 ans. Alors les sujets de tension entre les deux pays ne manquent pas. Le tracé de la frontière gréco-turque, la question chypriote, la crise migratoire, mais aussi les putschistes turcs réfugiés en Grèce. Le reportage à Athènes d'Angélique Kourounis.
La seule chose sur laquelle le président turc et le premier ministre grec sont tombés d'accord, c'est qu'il n'est pas question de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem est la ville symbole des trois religions monothéistes, a souligné le président turc. Il n'est pas question qu'elle devienne la capitale d'Israël. Une conférence internationale des États islamiques sera convoquée le 13 décembre prochain en Turquie pour décider de la riposte, a-t-il souligné. Alexis Tsipras, de son côté, a expliqué qu'il soutenait, comme l'ensemble des pays européens, la solution de deux États indépendants, israéliens et palestiniens, et qu'il ne reconnaîtrait pas non plus Jérusalem comme capitale de l'État israélien. Hormis cette question, les deux hommes étaient en constant désaccord, notamment sur la question du traité de Lausanne, qui règle entre autres les frontières des deux pays, traité que le président turc veut réviser au profit d'une amélioration, comme il précise, des frontières gréco-turques, pour ensuite, devant le tollé soulevé en Grèce, se cantonner dans une amélioration du traitement réservé à la minorité musulmane turcophone du pays, forte de 120 000 personnes. Cette visite, qui se voulait une visite protocolaire et de routine, a failli tourner au fiasco diplomatique tellement elle était tendue. Néanmoins, Athènes et Ankara ont assuré vouloir continuer de dialoguer et coopérer, notamment dans les secteurs économiques et touristiques.
Angélique Kourounis, correspondante en Grèce, invitée de ce journal Jean-Marc Coux, professeur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de la Turquie. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marc Coux, pourquoi Erdogan a-t-il choisi d'exhumer ce traité de Lausanne ?
En réalité, c'est pas la première fois qu'il le fait. Enfin, c'est la première fois qu'il le fait dans un contexte international. Mais il avait déjà fait, dans le cadre national, notamment en animant une polémique il y a quelques mois avec le leader du parti kémaliste et en disant que finalement ce traité, qui est considéré un petit peu comme sacré par les dirigeants turcs, n'était pas si avantageux pour la Turquie, n'avait pas débouché sur une situation aussi avantageuse qu'on le dit pour la Turquie. Donc il y a eu un débat d'ailleurs à l'époque, une polémique d'ailleurs, parce qu'on touchait un peu à quelque chose de sacré, je dirais, pour les nationalistes turcs. Et en même temps, je crois que là, c'est dans un contexte international. Donc ça prend une autre dimension, effectivement. Mais je crois que les déclarations du président Erdogan étaient surtout orientées sur la question des minorités qui est réglée par ce traité, en particulier des minorités turques en Grèce, enfin de la minorité musulmane de Thrace occidentale.
On parle de 120 000 personnes environ hein, au sein de cette minorité.
Oui, même peut-être plus, puisque le traité de Lausanne prévoyait, en fait, a prévu un échange de population entre Grecs et Turcs, et d'autre part que, justement, certaines de ces populations ont échappé à cet échange, en particulier les Turcs de Thrace orientale, qui sont, comme vous le dites, un peu plus de 100 000 personnes, et les Grecs d'Istanbul, qui étaient également très nombreux, mais qui sont partis finalement depuis les années 50.
Mais Erdogan estime que cette minorité musulmane en Grèce est aujourd'hui maltraitée par les autorités grecques ?
C'est-à-dire, effectivement, il y a beaucoup plus de problèmes avec la minorité musulmane en Grèce, qui est beaucoup plus nombreuse, qu'avec la minorité grecque en Turquie, qui désormais n'est plus que de quelques milliers de personnes. Alors, il y a effectivement des polémiques autour de la nomination des imams, autour de la participation de ces minorités à certaines manifestations, également au niveau du sort économique de cette minorité, puisque le niveau économique de cette minorité est quand même nettement inférieur à celui de la population moyenne en Grèce. Et donc, tout cela alimente régulièrement des conflits qui se ravivent. Or, il se trouve qu'avant la visite de Recep Tayyip Erdogan, il y a eu effectivement deux dignitaires religieux, enfin en tout cas un imam et un mufti qui ont été arrêtés.
Est-ce que Erdogan est aujourd'hui en position de force pour obtenir des concessions de la Grèce ?
Il est sûr que Erdogan joue un rôle de puissance régionale qui est important, que, comme vous le savez, la Grèce a vécu une crise difficile, que de surcroît s'ajoute le problème des réfugiés depuis plusieurs années, et bon, qui est finalement un problème qui est, au bout du compte, même s'il y a moins de réfugiés en Grèce qu'en Turquie, un problème beaucoup plus difficile à aborder pour un pays comme la Grèce, qui est moins puissant économiquement, que pour la Turquie, qui a quand même absorbé, je dirais, près de plus de 3 millions de réfugiés. Donc c'est vrai que la Turquie, économiquement, politiquement, dans son rôle de puissance régionale et militairement, est sans doute un pays qui a un avantage sur la Grèce et qui peut le faire savoir. Et Recep Tayyip Erdogan entend probablement le faire savoir à l'occasion de cette visite.
Mais sur la question de la frontière, les Grecs ne négocieront jamais l'intégrité de leur territoire.
Oui, non, je pense pas que le problème tellement de la frontière soit posé, enfin que l'idée de révision soit posée dans le cadre de l'idée d'une révision du traité de Lausanne. Probablement, ce qui est derrière les propos de Recep Tayyip Erdogan, c'est aussi les éternels problèmes non réglés, en particulier le problème du plateau continental de la mer Égée, le problème de la possession de certaines îles. C'est beaucoup plus ces aspects postérieurs, d'ailleurs, au traité de Lausanne, qui n'avaient pas été réglés par le traité de Lausanne, qui sont probablement dans la ligne de mire de Recep Tayyip Erdogan, mais en réalité, ce n'est pas un problème nouveau. Je crois que, de toute manière, cette visite, justement, se déroule dans un climat qui est un climat difficile, puisque ce climat est celui de l'échec récent des négociations à Chypre, puisque l'été dernier, après plusieurs mois de négociations, on n'a pas pu trouver à nouveau de solution aux problèmes chypriotes. Et donc cela crée un contexte qui est difficile. Par ailleurs, il y a derrière l'affaire chypriote le problème de l'avenir gazier de la Méditerranée orientale, puisque Chypre a du gaz, et récemment aussi il y a une sorte d'alliance entre la Grèce, Chypre et l'Égypte, autre pays justement qui à l'heure actuelle connaît des relations difficiles avec la Turquie. Et la Turquie a une ambition justement d'être un peu le hub de ce gaz de Méditerranée orientale. Il est évident que si un accord égypto-chypriote-grec, les choses ne passeront peut-être pas comme la Turquie entend le voir dans les prochaines années.
Jean Marcoux, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En Allemagne, la perspective d'une nouvelle grande coalition à Berlin se précise. Les sociodémocrates du SPD ont accepté ce soir d'ouvrir des négociations avec les conservateurs d'Angela Merkel. La GroKo ou Grosse Koalition permettrait à la chancelière d'éviter de nouvelles élections. La base du SPD n'y est pas forcément favorable, mais les délégués réunis en congrès à Berlin en ont décidé autrement, Cyril Sauvageau.
La révolte attendue des anti-grandes coalitions n'aura finalement pas eu lieu. À une très large majorité, les 600 délégués du SPD se sont rangés derrière leur chef, Martin Schulz, en acceptant d'entamer le dialogue avec Angela Merkel. Une grande coalition, comme celle qui vient de gouverner le pays pendant 4 ans, est donc à nouveau possible. Mais ce vote n'est pas un chèque en blanc. Martin Schulz en a fait la promesse. Il défendra bec et ongle le programme de son parti sur la justice sociale, le climat, la transition numérique et l'Europe, et s'il n'obtient pas de concessions suffisantes, alors il n'y aura pas d'alliance avec les conservateurs. Il ne faut pas vouloir gouverner à tout prix, a martelé le chef du SPD, qui promet de faire approuver par les 440 000 militants du parti le futur contrat de coalition s'il y en a un. On en est encore loin, la première phase des pourparlers commencera la semaine prochaine, mais les négociations concrètes attendront début 2018. La CDU d'Angela Merkel, soulagée par le résultat du vote, veut maintenant entrer dans le vif du sujet avec un objectif: donner au plus vite à l'Allemagne un gouvernement stable.
Cyril Sauvageau, correspondant de France Culture à Berlin, merci. Révolution de palais en Pologne, la première ministre Beata Szydło a démissionné ce soir. Elle sera remplacée par celui qui était son ministre des Finances, Mateusz Morawiecki. Un changement visiblement décidé par Jarosław Kaczyński, le président du parti Droit et Justice au pouvoir à Varsovie. En France, ils avaient occupé le chantier de la mosquée de Poitiers en octobre 2012. 5 militants de Génération Identitaire ont été condamnés aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Poitiers a reconnu 4 d'entre eux coupables d'incitation à la haine raciale. Le 5e a été condamné pour complicité de ce délit. Par ce coup d'éclat dans une ville symbole, Génération Identitaire classée à l'extrême droite voulait dénoncer une supposée islamisation de la France. Adrien Bossard.
Finalement, le plaidoyer pour la liberté d'expression n'est pas retenu. Une notion derrière laquelle les identitaires se retranchent pourtant lors du procès il y a 2 mois, avec cette tribune à la barre des 2 prévenus présents à l'audience. Chacun sa lettre pour défendre le droit de s'exprimer sans réellement tenter de se défendre. Le président du tribunal, lui, préfère mettre en avant le contexte. Dévoiler une banderole 732, qui plus est, à Poitiers, quand on connaît la référence historique de la bataille menée par Charles Martel contre les Arabes, c'est de la provocation, dit-il. Il évoque aussi les slogans scandés par les 70 identitaires ce jour-là. Gaulois, réveille-toi, souviens-toi de Charles Martel. Des expressions haineuses qui visent à rejeter la communauté musulmane selon la justice. Une communauté aujourd'hui soulagée par cette condamnation. La haine n'a pas de place dans ce pays, se félicite l'imam de Poitiers, Boubacar El Hadjamor, qui sait qu'il faudra sans doute revenir au tribunal prochainement. Génération Identitaire va faire appel.
Adrien Bossard de France Bleu Poitou. Johnny Hallyday sera inhumé sur l'île de Saint-Barthélemy, annonce l'annonce ce soir du président de la collectivité antillaise, Bruno Magras. Johnny avait fait construire une villa sur les hauteurs de l'île en 2008. Un hommage populaire sera rendu au chanteur samedi à Paris, de l'Arc de Triomphe à l'église de la Madeleine, en passant par les Champs-Élysées. Un mot de la météo, demain, temps instable, ponctué d'averses sur l'ensemble du pays. Il neigera en montagne sur presque tous les reliefs. Sur les régions méditerranéennes, des éclaircies se développeront dans l'après-midi. Les températures maximales de 3 à 6 degrés du nord-est au centre-est, 6 à 13 ailleurs, jusqu'à 15 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.